CISO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Deux C'est mieux en direct de la Bouffe-Tify spécial Big Brother célébrité aujourd'hui avec Patrick Côté et Erika Suarez. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Merci d'être là.
Ben merci de nous recevoir.
Ben oui. D'abord, Big Brother, pourquoi vous avez voulu le faire tous les deux? Est-ce que c'était la première fois que vous étiez approchés d'abord?
Oui, moi c'était la première fois que j'étais approchée, puis c'était vraiment un défi personnel. Je trouve ça super le fun. J'ai un gros amour pour ce jeu-là. C'est un jeu que je suivais déjà à travers le monde, dans plein de pays. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de le faire, c'est sûr que j'allais dire oui.
Moi, ça faisait 2 ans qu'ils me le demandaient. J'ai des enfants en jeune âge, donc je trouvais que c'était peut-être pas le bon timing, comme on dit au début. La raison pourquoi j'ai fait Big Brother, c'est que je voulais juste montrer une autre personnalité en arrière de l'athlète qui a fait un sport de combat quand même assez violent. Donc, je voulais montrer que je suis pas si violent que ça, dans le fond. Hein? que j'étais un papa, j'étais un ami, j'étais un confident. Puis je suis rentré là-dedans avec mon surnom de combattant qui était le prédateur et j'en ressors avec le surnom de papa ours. Donc je me dis c'est mission accomplie là.
Vous étiez dans la même alliance,
oui.
Tous les deux. Qu'est-ce qui avait cliqué entre vous quatre? Parce qu'il y avait Jean et Ève aussi avec vous autres.
Je pense que ça a cliqué dès le début là. Je pense que le premier jour on est arrivé, puis veut pas, malgré qu'on s'entend vraiment tout bien dans la maison, puis il y a vraiment tout le monde s'aime. Il y a quand même des atomes crochus. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même fan de sport de combat. Fait qu'on avait des discussions là-dessus, puis rapidement côté personnalité, je pense qu'on se ressemblait beaucoup. Ça le matchait avec Jean aussi, puis avec Eve. Fait que ça a été un peu comme les premières alliances qui se font dans Big Brother, c'est vraiment des alliances naturelles. C'est par rapport avec le jeu. Là,
ouais, puis Erika, c'est une personne quand même assez flamboyante. Là. On va pas se le cacher. Puis je pense qu'elle avait besoin d'une petite force tranquille à côté d'elle. Donc je pense que ça a bien à donner ensemble. Puis non, t'as raison. Hein. Je pense que la première journée, on s'est regardé puis on s'est compris tout de suite. Puis on avait un peu la même vibe. Puis c'est comme ça, tu sais, quand tu vois des personnes, quand ils rentrent dans la maison, tu sais quasiment au premier instant, le premier regard, tout ça, OK, ben avec lui ou avec elle, ça va bien marcher. Celle-là, pas sûr si je vais le truster jusqu'à la fin. Fait que directement au début, là, tu t'en rends compte.
L'an passé, on a vu que les athlètes ont souvent des cibles dans le dos rapidement. Alexandre Despatie s'est fait cibler dès le début. Est-ce que tu avais peur d'être ciblé? Est-ce que tu voulais déjouer ça?
Ben oui, ben c'est pour ça que j'ai joué fort tout de suite en partant. Je me suis dit, ça va durer le temps que ça va durer, mais au moins, je vais jouer à ce jeu-là. Je vais jouer le plus possible. Puis je savais qu'en rentrant là, tu sais, j'avais dit à Charles aussi, je dis, Charles, ça serait le fun que ça soit notre année, tu sais, une année des athlètes. Là, il est encore là, je suis super content pour lui. Mais je savais qu'en étant un joueur fort puis en jouant de la façon que je jouais, ça aurait été vraiment difficile de me rendre plus loin que ça, tu sais, parce que je suis devenu un joueur quand même fort rapidement. Puis c'est bien correct avec ça. J'ai passé 5 belles semaines là-dedans que je regrette pas.
Dès les premières semaines, il y a eu la réaction en chaîne autour de la table où les alliances se dévoilent pas mal. C'est quand même, c'est assez cruel comme façon d'éliminer des gens.
C'est abominable. Cette expérience-là a été vraiment dur parce que c'est pas nécessairement de dévoiler les alliances qui est le plus dur là-dedans. C'est plutôt de devoir faire des décisions stratégiques aussitôt et de ne pas sauver des gens que t'aimes, mais que tu travailles peut-être pas avec encore à 100%, qui était un peu ma situation. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que Jean me sauve et que moi, j'aille ensuite aller sauver Eve. Je croyais que j'allais être la dernière personne des Zoolander à être sauvée et que j'allais pouvoir sauver Danick après. Fait que ça m'a déchiré le cœur de pas pouvoir le sauver à cette table-là, mais c'est divertissant par contre.
Ouais, puis je pense que la conclusion de ça, c'est ça qui nous a tous déchiré le cœur, c'est qu'on a perdu Patty à cause de ça aussi. Ouais. Patty, c'est un coup de cœur pour tout le monde, puis malheureusement, c'est Dave qui a fait le sale travail pour tout le monde. T'sais, on savait que Patty, à un moment donné, bon, de la façon qu'elle jouait, je suis pas sûr qu'elle jouait de la bonne façon, mais c'était sa façon, puis on l'aimait toute d'amour, puis on l'aime encore toute d'amour à Patty. Puis ça a été c'était de cette façon-là que quelqu'un l'a sorti, parce que ça aurait pris vraiment beaucoup de courage, je pense, pour un patron de mettre Patty sur le bloc en partant, puis dire OK, c'est beau, je veux la voir partir, la regarder dans les yeux, parce que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Là.
Exactement. Puis c'est aussi quelqu'un qui était venu à Big Brother pour montrer un autre côté d'elle. Je sais que c'est une grande diva. Justement, elle disait qu'elle voulait montrer que malgré son âge, malgré sa situation, elle était là pour se battre. Puis elle est sortie vraiment comme une battante. Elle est sortie habillée en sport. Puis je pense que c'était comme un peu la mission qu'elle voulait atteindre. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais ça reste que La grande diva qu'elle était aurait peut-être mérité une sortie.
Ouais, ben c'est ça qui était le plus crève-cœur. Elle aurait mérité qu'elle sorte avec ses paillettes, avec son maquillage, avec toute sa grande beauté là. Ouais, exact.
Mais on aurait voulu ça pour elle.
Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, on l'a vu qu'elle était une battante pendant toute le temps qu'elle a été là. Elle a fait la slop. À un moment donné, quand elle faisait l'espèce de défi dans la tarte aussi là, ça faisait 3 minutes qu'elle était dans la tarte. Moi, j'ai quasiment levé la tête. Ça va, Patty?
Ouais,
parce que j'étais quasiment inquiet pour elle. Mais elle voulait tout faire. Puis tu dis que c'est une diva, tu sais, mais c'est une diva sympathique, tu sais. C'est
vraiment
pas une diva désagréable. Puis c'est Patty, je pense que tout le monde qui va parler d'elle, qui a été dans cette émission-là, va dire la même chose. On l'a tout tombé en amour avec elle.
Vraiment.
La slop a été associée à des jetons tout le long de l'aventure. Mmh. Est-ce que c'était oui tout de suite? Quand c'était payant?
Mm-hmm. Moi, j'étais sur la slop pendant un vrai 37 heures avant de lâcher. C'est dégueulasse, la slop. Je peux même pas... C'est abominable. C'est dégueulasse. Moi, c'est sûr que j'ai des problèmes de santé aussi qui m'empêchaient de faire la slop, on s'entend. Mais j'ai trouvé ça très courageux de la part de tout le monde d'embarquer.
Je pense que l'effet de gang aussi, ça nous a aidé à passer à travers. Là. Tu peux pas faire ça tout ça. T'sais, quand tu vois qu'il y a d'autres mondes, ça te motive, ça te garde un peu dans la motivation de continuer ça, même si ça goûte dégueulasse. Ben écoute, c'était ça. Puis moi, j'ai pas apprécié tant que ça cet aspect-là du jeu, parce que je trouvais que c'était juste garocher des jetons comme ça, puis faire la stop. T'sais, j'aurais aimé mieux qu'il y ait eu des épreuves ou des challenges pour aller chercher ça. Mais bon, maintenant, je sais à quoi ça goûte. Puis on n'a pas voulu nous donner la recette, mais je comprends pas pourquoi il y en a qui la demandent.
Parce que personne ne veut la refaire, honnêtement.
Non, mais c'est ça.
Vous aviez vu des épisodes des saisons précédentes, évidemment. Cette année, il y avait une nouveauté, c'était les jetons.
Ouais.
Qu'est-ce que ça changeait dans la maison, les jetons? Est-ce que ça vous habitait dans le jeu, les jetons?
Ben, je dirais qu'au départ, pas tellement, parce que nous, on a su assez tard c'était quoi. Nous, pendant à peu près 3-4 semaines, on savait même pas à quoi ça servait, les jetons. Fait que on a découvert le magasin, évidemment, mais on comprenait pas tellement le poids que ça avait. Ou est-ce que c'était vraiment nécessaire, ou est-ce que...
Ouais, jusqu'à temps que je m'efface voler.
Exactement. C'est sûr que ça l'a pas aidé. Mais à ce point-là, on avait un peu compris c'était quoi le but. Fait que, tu sais, je pense que c'est un aspect du jeu qui était un peu flou. Puis Big Brother, c'est une game qui est sociale. Fait que même si tu gagnes pas de challenge, tu peux gagner Big Brother quand même. Fait que c'est sûr que ça amenait à une autre dimension, mais c'était intéressant. C'est plus le côté de comment les gagner qui était un peu moins le fun, tu sais.
Ouais, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de challenges pour gagner des jetons. Évidemment, si mon aspect compétitif rentre là-dedans aussi, j'aurais aimé que ça, qu'il y ait beaucoup plus de challenges. Mais j'ai beaucoup mieux aimé l'aspect des jetons cette année que la salle des archives l'année dernière.
Oh oui.
Je trouve que c'était plus juste pour tout le monde, parce que tu sais, la salle des archives, ça fallait vraiment se souvenir de ce qui se passait dans les autres saisons. Il fallait vraiment avoir étudié ça. Écoute, moi j'ai 2 enfants là, je peux pas regarder toutes les saisons puis me rappeler de tout ce qui se passe. Donc moi j'aimais mieux l'aspect des jetons cette année.
Tu te les as fait voler.
Oui.
Est-ce que tu savais que c'était Dan ou tu pensais que c'était Joël comme tout le monde?
J'étais 90%, je savais que c'était Dan. Puis honnêtement, de manière qu'ils ont montré ça, ils l'ont montré 50-50 parce que pour vrai, j'étais pas fâché. Tu sais, j'ai ouvert mon tiroir puis j'ai fait je suis parti à rire. Moi j'étais un bon joueur, tu sais, je joue. Puis ce qui arrive pour moi, ce qui arrive contre moi, je suis dans la game, puis je suis un bon joueur. Puis, tu sais, la raison pourquoi que je me suis levé, puis j'ai annoncé à tout le monde qu'il y avait un voleur dans la pièce, c'était pour dire que je suis plus dangereux, j'ai plus de jetons. Donc, c'est la
semaine. Je pensais que ça allait te sauver, ouais.
Ben,
ça aurait dû le sauver.
Honnêtement, si le patron invisible avait été dans la maison, je serais pas parti.
Exact.
Parce que mon bluff de poker était très bon. Puis ça aurait été niaiseux pour le patron dans la maison de me mettre sur le bloc parce que toutes les soupçons étaient vers moi. Donc la semaine d'après, je m'aurais arrangé avec le trouble qui aurait passé, mais il m'aurait jamais mis sur le bloc, ça c'est sûr. Puis la deuxième raison, c'est que je voulais pas être tout seul à savoir qu'il y ait un voleur dans la maison, puis je voulais que le voleur comme tel se sente mal aussi. Puis pourquoi j'ai eu une espèce de poker face, tu sais, que je regardais tout le monde dans les yeux, puis je voulais voir vraiment qui allait pas me regarder. Puis évidemment, Daniel, il fuyait mon regard un petit peu. Mais c'est le jeu, puis tu sais, Daniel, j'en veux pas à personne là-dedans. Puis Daniel, tu sais, c'est le bon jeu à faire. Je sais qu'il a regardé les épisodes. Je sais pas s'il s'est rendu compte que Joël s'est servi de lui un petit peu pour faire la game. Ben, Joël, c'est son idée, mais elle a pas fait
elle a pas dépensé le jeu.
Elle a fait faire la job par Daniel. Mais encore une fois, c'est ça. Encore une fois, c'est un bon jeu. C'est un jeu une fois de plus. Fait que faut que tu sortes le personnel du jeu là-dedans parce que tu t'en sortiras pas, là.
Vraiment.
Il y a eu la semaine de Patron Invisible. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Évidemment, vous vous doutiez pas que c'était Eve. Quand vous l'avez su, c'était quoi votre réaction?
Ben moi, je l'ai su en premier parce que je suis sorti,
sorti
de cette semaine-là. Mais tu sais, je savais que cette semaine-là, elle était vraiment cruciale pour un joueur quand même fort. Je pensais que mon bluff avait super bien marché. Si le patron avait été dans la maison, je pense que ça aurait été...
Mais en même temps, tout le monde a passé sur le bloc cette semaine-là.
Ouais, ben c'est ça. Ils ont passé à la maison au complet pour me sortir. Mais en même temps, je suis allé dans le magasin peut-être 2 jours en retard. Mais moi, j'aime pas ça magasiner dans la vie. Fait que, tu sais, c'est ça. Mon dédain du magasinage en général m'a coûté ma place dans ce show-là. Mais en même temps, tu sais, j'étais dans le studio, puis quand Marie-Mé a fait rentrer Eve, tu sais, je suis parti à rire aussi. Moi, je l'aime beaucoup, Eve. Je l'ai pris dans mes bras. Puis, tu sais, ça reste que c'est un jeu. Puis, c'est sûr que, tu sais, on a lu beaucoup de choses par la suite que le monde est un peu en désaccord avec ce privilège-là que quelqu'un a eu, qui s'est fait sortir un privilège qui avait beaucoup, beaucoup de pouvoir. Parce qu'on a vu un peu comment ça a été monté aussi. Il y avait un petit peu de vengeance, vendetta en arrière de ça. Parce qu'elle avait pas vu les épisodes encore, donc elle comprenait pas pourquoi qu'elle s'était fait sortir. Par la suite, on était à l'hôtel ensemble. On a passé 3 jours à l'hôtel ensemble avant l'émission d'éviction. Puis on écoutait ça. Puis elle a vu c'était quoi qui était arrivé la nuit des longs-jetons. Puis c'est ça. Elle a compris, mais je pense qu'elle avait plus peur de ma femme qu'elle avait peur de moi. Pour vrai. Quand ma femme est venue me rejoindre à l'hôtel, elle s'est cachée dans sa chambre. J'ai dit, ouais, mais elle avait vraiment plus peur de rencontrer ma femme, je te dirais.
Mais pour moi, le patron invisible, ça a été dur parce que tout pointait vers Jean, tu sais, puis Jean était mon seul allié dans la maison, puis quand je lui demandais, c'est-tu toi, Jean? Il disait, ah, peut-être. Tu sais, il disait pas, non, c'est pas moi. Ce qui a causé mon, ben, pour moi, c'était Jean. Il y avait pas, je veux dire, il y avait aucune, puis pour moi, c'était vraiment une grande trahison parce que Jean était supposé d'être mon allié. Jean, à ce moment-là, dans ma tête, m'enlève Pat, qui est mon meilleur allié. Fait que là, moi, je perds 2 alliés, 3 alliés quasiment, parce que j'ai Eve qui est partie, Jean qui est mon allié, enlève Pat, et là, il reste dans la maison, puis vu que je continue à jouer avec lui, ben non, je jouerai pas avec toi, tu m'as enlevé Pat. Fait que tu sais, il était vraiment pas convaincant que c'était pas lui. Même pendant la semaine invisible.
Ben c'est ça, moi j'étais assis à côté de lui, puis quand j'étais sur le bloc, puis là je lui ai dit, Jean, je pense pas que j'ai besoin de te courtiser pour avoir ton vote, puis il me répondait pas. Là j'ai renvoyé une autre perche, mm-hmm. Il répondait pas. À un moment donné, on est dans le spa, puis là j'ai dit, oh, au pire, je vais voir mes enfants la semaine prochaine, je vais être content, puis tu sais. Puis là il me dit, ben oui, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Je dis, ouais, Jean.
Voyons donc, Jean.
T'es pas avec moi, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il était pas convaincant.
Cette semaine-là, justement, je me suis assis avec lui, puis j'ai dit, OK. Avant même que Pat soit sur le bloc, j'ai dit, je suis sûr que Pat va se retrouver sur le bloc. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Puis il m'a répondu, même pendant que Pat était encore là, ça serait pas si mauvais que ça, Pat s'en aille. Puis j'ai fait, ah, mais c'est lui, c'est sûr que c'est lui, tu sais. Fait que quand j'ai appris que c'était pas lui, moi, je suis tombée en bas de ma chaise, je me suis dit, ben, voyons, il aurait dû jouer ça autrement, être plus convaincant, parce que jamais je me serais retournée contre lui dans la maison à ce moment-là. Fait que ça a été aussi ce qui m'a tué, moi, dans ce jeu-là, et ce qui l'a tué, lui, aussi, veut pas.
La nuit des longs jetons, ça a donné l'alliance, tu dors, tu sors. Est-ce que vous auriez tenu cette ligne-là jusqu'au bout, ou c'était fragile, cette ligne-là?
Ben, je pense, on l'a tenu jusqu'à temps que, tu sais, c'est juste que, Barbada
a mêlé un peu
nos plans, mais on l'a tenu. Puis tu sais, Daniel a été très intelligent dans cette nuit-là parce qu'il savait que lui et Joël étaient vraiment dans le trouble. Donc il est parti avec ce deal-là. Il a vraiment bien négocié.
Il a vraiment bien fait ça
pour se sauver de là parce que c'était les deux prochains qui étaient allés. Puis surtout Dan était vraiment en danger. Fait que il a pris le taureau par les cornes puis il nous a proposé cette alliance-là qui faisait du sens. Honnêtement, cette soirée-là faisait du sens.
Ça a été très court à la télé. Ce segment-là, mais pour nous, ça a été très long. La nuit des longs jetons, ça s'appelle la nuit des longs jetons pour une raison. On a été assis là longtemps, on a négocié longtemps, puis je trouve que le deal en tant que tel, il est pas expliqué au complet dans l'émission. Il y avait vraiment beaucoup de clauses. On parle comme un contrat, mais c'était vraiment ça. Il y avait beaucoup de clauses qui vous ont pas été données. Fait que, tu sais, Jean était protégé là-dedans, moi j'étais protégée, Danick était protégée, et on avait 3 semaines de lousse. Fait que nous, un peu dans notre tête, ce qu'on s'est dit, c'est on va s'arranger pour que Eve soit la dernière sortie, puis en 2 semaines, on a le temps de faire revirer ça de bord. Fait que nous, on n'a pas nécessairement condamné Eve. On aurait voulu la sauver. Mais si Barbada était pas partie comme ça, on aurait eu plus de temps. Mais je suis contente pour elle qu'elle ait fait. Elle allait vraiment pas bien, Barbada, mm-hmm. dans la maison, puis il fallait qu'elle s'écoute. Mais ça, comme dans tout dans Big Brother, ça se passe jamais comme on veut. Fait que...
Est arrivé le bouton du retour en arrière?
Ah ouais. Mon bon ami, le bouton.
T'as pas hésité. Moi, j'ai même... une seconde, tu t'es pitché dessus.
J'ai pas hésité une seconde, j'ai même pesé 10 fois pour être sûr. Non, j'ai pas hésité, j'avais pas le choix. En fait, moi, j'ai beaucoup écouté les autres saisons. Je savais que bouton voulait dire changement de bloc d'une manière ou d'une autre. Moi, j'étais sur le bloc avec Jean. J'ai pas de jetons. Je suis en danger. Et ce bouton-là a apparu tel un ange descendu du ciel. C'est sûr que j'allais appuyer. J'avais pas le choix, puis je l'ai même cassé le bouton. C'est l'exclusivité que je vous donne. Il y a un technicien qui a dû rentrer pour venir le réparer parce que je l'ai détruit complètement. Mais oui, ça a été instantané, le bouton. C'est dommage juste que le choix du patron a été fait de la même façon,
ouais,
parce que la même semaine, c'est juste répété. Ça a été dommage pour et moi et Jean. Ça a été une journée extrêmement difficile pour les deux. On a vécu 2 blocs back-to-back. Fait que c'était vraiment pas le fun comme journée, je dirais. Puis ça aurait été juste le fun qu'il y ait possibilité d'avoir un autre patron ou que le même patron ne puisse pas être patron. Tu sais, quelque chose comme ça pour que ça change un peu la semaine. Ça aurait pu vraiment changer la donne pour moi puis Jean.
Quand on est patron, on a des appels avec nos proches.
Ouais.
Tu l'as vécu dès la première semaine avec tes enfants. C'est comment? C'est évidemment, c'est très peu de temps que tu étais parti, mais il y a quand même un beau émotif
ben,
de revoir tes enfants.
Ça faisait juste 5 jours que j'étais parti, on s'entend, mais... Ce que vous comprenez, c'est que 5 jours dans cette maison-là, c'est comme 5 mois. Là. C'est beaucoup de temps libre, mais on a juste ça à faire. On se parle 24 heures sur 24, on est avec des nouvelles personnes. Puis, tu sais, moi, la raison pourquoi j'avais pas accepté les deux premières fois qu'ils m'ont demandé, c'est que c'était justement à cause de l'éloignement de ma famille puis de mes enfants. Puis, comme j'ai expliqué, j'ai dit, moi, la seule promesse que j'ai faite à mes enfants, c'est que le plus beau cadeau que je vais leur faire, c'est le temps que je vais passer avec eux.
Ce que toi, t'as pas eu, tu l'as dit.
Ce que moi, j'ai pas eu, exact. J'ai pas eu de présence paternelle quand j'étais jeune. Donc, pour moi, c'est super important. Puis là, j'étais pas capable de tenir cette promesse-là. Fait que c'est sûr que moi, après 5 jours, ma fille m'a dit, je m'ennuie de toi, puis je sais que je la reverrai pas, peut-être pas pendant deux prochains mois. C'est sûr que j'ai cassé, là. T'sais, puis quand je les ai rappés 2 semaines plus tard, là, je me suis géré un peu mieux, là. On s'entend, mais c'est sûr que, tu sais, c'est parce qu'il se passe en dedans, puis tu sais, Erika va vous le dire aussi, c'est la même chose, c'est une journée, c'est une semaine, c'est un mois, c'est, il y a tellement de temps libre, puis le temps est comme...
Parce qu'on voit, il n'y a pas de fenêtre, ouais. Non plus, hein. Fait que, tu sais, t'es en dedans, tu sais pas s'il est 3h, 2h, 5h du matin, tu sais, le temps est élastique. C'est comme si t'es dans une espèce de dimension autre que la réalité, puis le fait d'avoir rien à faire. Tu sais, on est assis, puis on est comme... La plus grande activité dans la maison, c'est se lever pour aller s'asseoir ailleurs.
On prenait des marches dans la maison.
Ouais, on faisait de la marche.
Puis tu sais, comment ça marche, c'est que oui, il y a des journées de captation pleine, mais des journées de captation légère aussi. Captation légère, où ce qui se passe.
Il n'y a pas de casino.
Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de casino, il ne se passe absolument rien. Mais la game, elle continue quand même. Donc, tu sais, faut pas que tu penses qu'il y a tout le temps une journée où ce qui se passera rien. Parce que les mondes continuent à se parler, puis il y a toujours des choses qui se passent. Donc, oui, tu peux prendre une journée plus relaxe, mais tu peux jamais prendre une journée de congé.
Non, c'est
parce
ça.
Que la game, elle avance tellement, tellement rapidement à tous les jours. Fait que même si on vous dit, OK, aujourd'hui, il y aura rien dans ces captations légères-là, ben, l'interaction envers tout le monde qui est dans la maison continue quand même.
Ouais, exact.
Que quand on est éliminé de la maison Big Brother Célébrité, c'est comment? Toi, t'as été très émotif, ta sortie?
Ben, comme j'ai expliqué, j'ai réussi à détacher le personnel du jeu pendant tout le long. Puis c'est sûr que là, tu sors, tu développes des liens ultra rapides avec tout le monde. Je pense que moi, je pensais que j'allais être détaché du jeu pendant à peu près une semaine et demie, mais après 48 heures, on s'était tous compté nos vies. Puis, c'était ça pareil. Puis, tu vis 24 heures sur 24 avec des personnes, puis tu développes des liens très, très serrés rapidement. Puis, c'est sûr que quand tu sors, ben, tu sais, comme j'ai dit, le joueur était déçu, mais le papa était content de rentrer à la maison. Mais il reste que les beaux messages que tu reçois, puis tu t'aperçois que, tu sais, oui, ils ont sorti le joueur, ils n'ont pas sorti la personne. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des beaux mots, puis tu t'accueilles ça avec une façon peut-être un peu plus émotive.
Ouais. Erika, comment tu l'as vécu, toi?
Ben, tu sais, pour moi, c'était quand même... c'est la même affaire. Tu sais, moi, je savais que je me faisais backdoor. Je me suis battue jusqu'à la fin parce que c'est ça le jeu, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis on sait jamais quand est-ce que ça peut revirer de bord. Mais la seconde, tu sais, que t'es assis sur cette chaise-là, puis que Marie-Mé dit « Erika, tu es éliminée », il y a automatiquement une espèce de voile du jeu qui s'en va, puis c'est juste l'humain qui reste, puis c'est là que tu dis bye aux gens qui sont dans cette maison-là, qui sont des gens avec qui t'es... Je veux dire, il y a personne dans nos vies avec qui on passe 24 heures sur 24, 50 jours, sans arrêt, sans aucune distraction.
Une chance, c'est ça.
ça devient des amis avec des liens que t'as même pas avec des amis à l'extérieur. Tu sais, c'est drôle à expliquer, puis c'est un choc aussi quand tu sors, puis que tu croises des gens du public, puis qui disent, mettons, « Ah, oh, Charles, je l'aimais pas! » Puis que... Mais moi, Charles, je l'aime, tu sais, parce que même s'il m'a trahi, Charles, c'est le gars avec qui je mangeais mes œufs le matin, que je déjeunais, que je jouais au ping-pong, que j'allais faire mon lavage, que, tu sais, comme, on vivait ensemble, on est des vrais amis. Fait que quand on part, c'est sûr qu'il y a cette espèce de deuil-là à faire, là.
Puis la chose aussi, c'est que ce qu'on voit à la télé, c'est à peu près 5% de ce qui se passe pour vrai, parce que tout ce qui est plus personnel, les discussions, quand on échange, puis qu'on devient vraiment proche, c'est pas montré, ça, parce que pour pour construire l'histoire du jeu, ça fait pas de lien. Donc ce qu'on voit, c'est des discussions seulement de jeu, ce qui se passe, tu sais, pratiquement.
Parce qu'on fait le moins dans la maison, ouais, c'est parler de jeu.
Exactement.
C'est ce qui se passe le moins.
C'est pour ça que quand on sort, tu sais, il y a une grosse vague d'émotions, parce que justement, tu sais, on a développé des belles discussions, des liens super, super proches, parce que c'est de tout ça qu'on va s'ennuyer, non pas des discussions du jeu, là.
Puis veut pas, tu sais, pendant qu'on est là-bas, on est là-bas quand même longtemps, tu sais, il y a des gens dans la maison, qui vivent des drames à l'extérieur, il y a des gens qui reçoivent des mauvaises nouvelles de l'extérieur, il y a des gens qui vivent plein de choses, puis nous dans la maison, on est là pour ça aussi, des gens qui reçoivent des mauvaises nouvelles de l'extérieur, qui pleurent, qui vivent des deuils, qui vivent des...
On vit tout ça ensemble.
Puis on vit ça ensemble, tu sais, moi, ramasser une personne que je connais pas, passer la nuit avec pendant qu'il pleure dans mes bras, parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est décédé, ça arrive, là, mais ça passe pas à la télé, tu sais, fait que je veux pas, ça crée des vrais liens. Quand on part de la maison, c'est ça qui nous fait pleurer. C'est pas le jeu qui nous fait pleurer, c'est perdre les humains, tu sais.
Il y a un challenge que t'as pas pu faire, exact, en raison d'une condition physique de ta naissance.
Oui.
Même si tu le savais que tu peux pas le jouer. Mm-hmm. Est-ce que ça a été dur de le regarder sans pouvoir te défendre?
Oui, ça a été de la torture, en fait. Moi, j'ai failli sortir de la pièce, parce que, j'ai un handicap aux jambes qui m'empêchait de faire ce challenge-là. Donc, juste de voir le challenge, ça a été super difficile. Moi, en allant à Big Brother, je savais que c'était une possibilité. Puis je me suis dit, avant de rentrer, j'ai dit à mon conjoint, je pense que si je m'en vais la semaine où j'ai pas pu me battre au veto, je vais être en grande tristesse. Puis c'est ça qui est arrivé. Quand j'ai vu que c'était ça le challenge, je savais que j'étais en danger. Ils l'ont pas montré à la télé, mais j'ai dû passer 8 heures à broyer de rage, là, tu sais, d'être malade, puis c'est ma réalité. Puis je l'ai même dit au premier épisode que j'ai un cancer, puis tu sais, je suis une personne qui est malade en général. Mais de pas pouvoir participer, ça a été super difficile. Puis les gens dans la maison ont vraiment été là pour moi, malgré qu'ils me backdooraient par rapport au jeu. Ça a fait bien de la peine à tout le monde que ça arrive comme ça. Puis voir le challenge, ça a été super difficile. Joël est tombé violemment plusieurs fois. Tu sais, ils l'ont montré quelques fois à la télé, mais c'est rien, là, comparé à ce qui est arrivé, là. On avait peur pour elle. Puis de la voir tomber aussi souvent, puis de la ramasser après, elle était plus capable de marcher, ça a été très difficile.
C'est rendu un verbe, hein, ça, backdooring.
Backdooring.
c'est rendu un verbe, ça.
Ouais.
Est-ce que tu le faisais aussi un peu pour montrer que ça se peut aller au-delà de ses limites?
Absolument.
Puis montrer que même si on a un état de santé qui est difficile, faut pas s'empêcher de faire des choses.
Ben absolument. Puis tu sais, il y a des risques dans ce jeu-là, comme j'ai pas pu faire la slop à cause de ça, j'ai pas pu participer à ce challenge-là. Mais ça veut pas dire que tu peux pas jouer, te rendre loin. Il y a toujours une autre façon de se rendre. Puis il y a moyen aussi d'être joyeux, puis de continuer à vivre même si on est malade. Puis il y a plusieurs personnes cette année dans la saison qui portaient ce message-là. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Il y a Fred avec son handicap, il y a Patty avec son âge, il y a moi, il y a beaucoup de monde. Il y a Gab aussi qui est une femme trans, qui a montré que, tu sais, je veux dire, je lançais pas mal mieux un ballon qu'elle, tu sais, fait que, tu sais, on s'entend que je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun, puis j'ai trouvé ça vraiment cool que tout le monde ait une belle mission cette année.
Il y a la chambre des mises.
Oui.
Que t'as découvert avec Jean. En fait, Jean a ouvert la porte. Vous étiez les deux à avoir le secret. Et ça a duré
20 minutes.
Très peu de temps.
je pense que c'était mon moment préféré de toute mon expérience. C'est un moment qui a passé à la télé sous un œil, mais qui s'est vécu d'une façon complètement différente. Moi et Jean, on était assis dans le walk-in, puis Jean, dans son moment, qui dit, hey, imagine, j'ouvre la porte, puis ça ouvre, là, je dis, yeah, là, toi, là. il se lève et comme de fait, la porte s'ouvre et il ouvre grand les portes. Moi, je cours, je dis, ben, ferme les portes, le malade, imagine que quelqu'un passe. Ferme les portes, on a couru jusqu'au confessionnal. On s'est fait dire qu'on n'avait pas toutes les informations parce qu'on n'a pas lu à l'intérieur. On a ouvert les portes, on a vu aller au confessionnal, on a refermé les portes. On a essayé d'être discret, comme vous pouvez voir, on n'était pas discret pendant tout. Puis, en revenant, tu sais, moi, dans ma tête, à ce moment-là, Jean est le patron invisible. Et je me dis, moi, je fais tout pour essayer de travailler avec quelqu'un d'autre, puis me séparer de Jean, puis je trouve la porte avec Jean. Et le fameux moment de moi qui rentre dans la chambre.
Où t'es seul avec la caméra, puis tu
fais dans la chambre,
caméra.
Et que je dis, pourquoi? Pourquoi fallait que je trouve la porte avec Jean? Jean qui rentre juste après. Tu sais, un moment qu'ils ont pas montré, c'est que dès qu'on est sorti de la chambre, moi, je l'ai dit à Jean. J'ai dit, hey, Jean, c'est vraiment drôle, t'es rentré, puis j'étais en train de dire à la caméra que... Pourquoi j'ai trouvé la porte avec toi, tu sais. Ça, ça a fait assez polémique. Moi, j'ai reçu plein de messages de gens qui étaient comme vraiment gauchants, mais qui, tu sais, ils vous montrent pas que moi et Jean, on était des très, très, très bons amis, puis que moi, j'y ai compté ce qui venait juste de se passer 2 secondes avant. Puis c'était drôle parce que lui, il voyait ça comme du pouvoir. Il était comme, on a une information, on va utiliser ça pour se sauver. Ça a duré 20 minutes.
Moi, je trouve que c'est le meilleur moment de télé de cette année, là, que Jean parle, tout est en arrière. Puis, tu sais, je trouve ça très fantastique.
Puis, tu sais, faut dire aussi que moi, je parlais aux techniciens, en fait. Je parlais pas au public. Parce qu'il y a des techniciens qui nous regardent à travers les caméras, tu sais.
Oui.
Fait que des fois, ça arrivait qu'on parlait aux techniciens à travers les caméras. Donc, moi, à ce moment-là, c'était ça. C'était pas au public que je parlais, c'était aux techniciens qui leur disaient « Pourquoi vous avez débarré la porte pendant que j'étais avec Jean dans le walk-in? » Mais ça a fait la cote pour la télé. Puis, je suis bien contente. C'est un moment très drôle.
Tu seras dans le jury?
Oui.
As-tu décidé sur quoi tu vas baser ton vote?
Honnêtement, tant que je vois pas c'est qui est là, c'est dur de décider. Je vais vraiment être déchirée entre mon cœur et le jeu. Il y a 2 façons de voter. Tu votes pour la personne que t'aimes le plus. Ou moi, qui est une grande amoureuse de Big Brother, je serais portée aussi de voter pour la personne qui a le mieux joué. Tu sais, comme une Joëlle, par exemple, qui a eu un jeu impeccable, qui a réussi à manipuler les gens, à faire les moves qu'elle voulait. Puis ça, c'est ça, Big Brother. Big Brother, c'est mentir, c'est déjouer, c'est manipuler. C'est ça, le jeu. Fait qu'elle l'a vraiment bien faite. Mais mon cauchemar, ça serait d'avoir une finale Joëlle-Danick. Mon cœur contre ma tête.
Il y a des joueurs très, très forts qui sont encore là.
Mm-hmm.
Il y a des joueurs qui ont passé plus sous le radar,
ouais,
de l'œil du public, qui sont encore là, comme Gabriel, même Fred, par certains moments.
Ouais.
Est-ce que ça peut jouer jusqu'à la fin, tout ça, maintenant qu'on est dans le défi des champions, là, on n'est plus dans les alliances tant que ça, là?
Oui, mais tu sais, Fred, tu sais, peu importe comment qu'elle est personnellement, elle a quand même gagné beaucoup de challenges.
Ouais, ben
aussi,
oui, tout fait.
Je trouve que c'est une belle
c'est
leçon de...
Oui, oui.
C'est une belle leçon de résilience aussi. On voit que, tu sais, malgré son handicap, elle accepte pas de se faire aider. Elle veut terminer tout seul. Mm-hmm. Moi, je trouve ça beau à voir aller. C'est sûr que, tu sais, tu regardes Gabrielle, elle a pris la couleur des murs, on va se le dire, là. Puis, tu sais, elle a pas joué tant que ça. Mais il reste que c'est une autre stratégie dans ce jeu-là aussi, c'est de passer sous le radar puis pas faire peur à personne puis dire « Oh, au pire, on la sortira quand ça va être le temps. » Sauf que là, il y en a plus de temps.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça se peut qu'elle se ramasse. Puis moi, Gabriel, pour moi, ça a été un autre coup de cœur parce que
exact.
Sans faire ce jeu-là, j'aurais jamais rencontré cette personne-là. Puis pour moi, c'est un plus dans ma vie de connaître ce milieu-là parce que elle explique tellement bien c'est quoi ce monde-là. Le monde du trans.
Ouais.
Exact. Puis toutes les questions que j'avais dans ma tête, je les ai toutes posées. Des questions vraiment bizarres, comme des questions vraiment que tout le monde se pose. Mais j'ai posé toutes les questions qui existent, que j'avais. Puis elle a répondu avec honnêteté. Puis honnêtement, elle n'a aucun tabou. Puis je trouve ça beau là-dedans. Puis je trouve ça, tu sais, elle est bien avec elle-même aujourd'hui. Puis peu importe les préjugés qu'on a, peu importe. Mais elle est bien avec ça, puis tu sais, je te cacherai pas, j'en avais peut-être des préjugés, c'était plus un manque d'information, un manque de connaissances envers ce monde-là. Puis aujourd'hui, je suis content de l'avoir rencontré parce que justement, j'ai fait une lumière là-dessus sur cet état d'esprit-là, ou cet état d'être-là, plus je te dirais. Fait que c'est un autre genre de stratégie de passer un petit peu à gauche à droite, puis de pas être très fort dans les challenges non plus.
C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, un peu comme ma manière de jouer. On est des joueurs sociaux, on est des joueurs que nous, notre jeu est pas fait dans la stratégie. Notre jeu, il est fait dans le sens que on est dans la maison, un peu comme genre on fait à manger, on fait du ménage, on fait ci, on fait ça. Puis ça fait partie du jeu de participer dans la maison
ou
d'être juste de bonne humeur. Puis Gab, c'était quelqu'un pour moi qui était, c'était un peu la vie du party. T'sais, si, mettons, tu veux aller dehors, elle va venir dehors. Tu veux aller jouer au ping-pong, elle va jouer au ping-pong. Elle était willing, elle était le fun, mais ça fait pas la cote dans l'émission parce
non.
C'est juste la vie de tous les jours. Fait que je pense que les gens ne voient pas ce côté-là d'elle que dans la cohabitation. Gab, c'est une fille qui est super facile à vivre, elle est le fun, elle est de bonne humeur, elle est drôle, elle est willing.
Elle est
fait que ça, elle est vraiment drôle, mais ça passe pas à travers dans l'émission. Fait que les gens se disent, ben, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sert à rien, elle fait rien. C'est juste que ce qu'elle fait, c'est pas télévisuel. Fait que c'est pour ça qu'on la voit pas tant que ça, mais tu sais, elle a quand même un bon impact dans la maison.
Erika, t'es humoriste, oui. Mais aussi comédienne.
Oui.
Et c'est arrivé un peu par hasard après le déluge, non?
Exactement, oui.
Donc, c'était moi, pas le plan.
C'était pas du tout le plan. Moi, j'étais humoriste, je faisais des spectacles d'humour. Puis c'est la prod après le déluge qui m'a approchée pour ce rôle-là. Puis ça m'est tombé dessus un petit peu comme ça. Puis je suis tombée en amour avec le métier de comédienne après ça.
Et là, ça devient un métier en parallèle.
Oui, absolument. Maintenant, je suis activement et humoriste et comédienne. La saison 2 de Après le déluge, le tournage commence sous peu, fait que ça va sortir. Puis je travaille aussi dans d'autres projets comme comédienne, mais l'humour est toujours mon premier amour.
D'ailleurs, t'es venu souvent ici. C'est ce que tu
veux. Souvent à Sorel faire des spectacles. C'est un endroit que j'adore, un public que j'adore. C'est souvent les meilleurs spectacles au pub O'Callaghan, c'est là que je viens jouer souvent. Puis j'adore ça.
Et est-ce qu'il y a un one-woman show, ça s'en vient?
Oui, je suis en train de travailler sur mon one-woman show en ce moment, qui va probablement sortir vers la fin de cette année ou l'année prochaine, début de l'année. Tout ça va être sur mes réseaux, vous allez pouvoir voir. Puis c'est sûr que si je pars sur la route, j'arrête à Sorel.
Super.
C'est sûr.
Patrick, t'es aussi comédien depuis quelques temps.
Oui. Ben, j'ai joué.
Est-ce que c'était un souhait?
Oui. Moi, quand j'ai pris ma retraite, je suis retourné à l'école pour me former justement en tant qu'acteur. Puis c'est ça que je fais depuis quand même quelques années. Je joue beaucoup au Canada anglais. J'ai joué dans deux films américains aussi, mais là, au Québec, ici, ça fait une dizaine de séries que je suis là. Puis c'est une autre raison pourquoi j'ai fait Big Brother aussi. Ce qui est ici au Québec, c'est un marché qui est très, très petit. Et peu importe ce que je faisais comme rôle dans les séries, c'était des deuxièmes rôles importants qui revenaient, mais tu sais, pour mettre un rôle principal, il n'y avait pas la justification de me mettre dans un rôle principal ici au Québec, parce que monsieur, madame, tout le monde aurait dit, OK, mais c'est qui lui? Pourquoi vous me mettez là? Donc, j'étais très connu dans mon sport, mais évidemment, avec Big Brother, ça me permettait d'aller chercher un autre auditoire, une autre vision des gens qui pouvaient voir que, justement, j'étais l'humain derrière l'athlète, puis c'est justement ça. Donc, ben présentement, ben ça l'a beaucoup aidé pour moi aussi. La raison de la moustache, parce que dans un film américain aussi, donc c'est pour ça que je porte la moustache aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je donne beaucoup de conférences aussi. Je travaille depuis 15 ans pour l'UFC aussi en tant que commentateur aussi. Donc, tu sais, j'ai bien varié mes choses quand j'ai pris ma retraite. Puis, tu sais, j'ai d'autres compagnies qui vont très bien, mais je fais ce que j'aime aujourd'hui. Puis, je pense que c'est ça le plus important.
Mm-hmm. Il y a 20 ans cette année, tu faisais ton premier combat dans le UFC, ouais. En 2004. Ça représentait quoi ce moment-là pour toi? Parce que c'est mythique le UFC quand on fait ça.
Oui, c'est comme rentrer dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est un rêve de... Je peux pas dire le petit gars parce que j'ai commencé assez tard à faire des combats.
Ouais, c'était pas un souhait, c'est dans l'armée que c'était arrivé.
Ben oui, quand j'étais dans l'armée, c'est pas à cause de l'armée, mais quand j'étais dans l'armée, puis finalement, ben ça a donné que j'ai développé des habiletés quand même bonnes assez rapidement dans ce sport-là. Puis finalement, en 2004, je suis rentré dans la plus grande organisation au monde. Puis j'ai fait une carrière là-dedans pendant 15 ans. Donc pour moi, c'était un but que j'ai réussi à atteindre. Maintenant, c'était d'y rester. Donc, c'est sûr que c'est un sport qui est difficile, qui est dur pour le corps, qui est dur pour tout, parce que évidemment, on compare ça à la Ligue nationale de hockey, mais on n'est pas payé comme les joueurs de hockey non plus.
C'est ça.
Donc, tu sais, il y a un après-carrière après ça aussi. Oui, j'ai bien vécu de mon sport. J'ai eu le privilège de vivre de ma passion pendant 15 ans de temps. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un grand privilège. J'ai eu le privilège aussi de prendre ma retraite quand moi, ça me tentait. Et non pas à cause d'une blessure, non pas à cause que j'étais plus capable de compétitionner. C'est juste que j'avais fait le tour. Donc, j'avais préparé mes choses. Puis aujourd'hui, ben, je trouve que j'ai fait une bonne décision.
Mm-hmm. Est-ce que tout le long, il pense à l'après-carrière? Parce qu'on le sait que ce sera une carrière de courte durée, on fera pas ça.
Ben, ça peut durer un an, comme ça peut durer 15 ans. Ça dépend toujours d'un mauvais KO, un mauvais coup, une mauvaise blessure, des mauvaises performances. Peu importe, il peut arriver tout plein d'affaires. C'est un sport qui est très ingrat, je veux dire. Parce que même si t'es au sommet de ta forme, un mauvais coup peut passer, puis tu l'as pas vu. On a passé un lucky shot, des fois.
Choses, c'est comment pire qu'une mauvaise blague.
Exact. Fait que ça peut arriver. Mais de plus en plus, je pense que les jeunes s'aperçoivent que ça peut se terminer du jour au lendemain. Moi, j'ai eu une grosse blessure en 2008 qui me laisse mis à l'écart de la compétition pendant un an et demi. Puis là, j'ai comme réalisé, OK, là, ça peut se terminer demain matin. Fait qu'à partir de 2009, j'avais commencé à préparer mon après-carrière, mais je pensais peut-être que ça allait se finir plus rapidement, mais finalement, ça a duré 8 ans de plus, en 2017. J'ai pris ma retraite.
Mais t'étais pas papa à ce moment-là.
Non, exact. Moi, j'étais papa le premier coup en 2016. Puis ça, je peux te dire que ça a donné vraiment le point final à ma carrière. Parce que c'est un sport qu'il faut que tu sois extrêmement égoïste pour performer. Faut que tu penses à toi et vraiment juste à toi. C'est sûr, quand t'as une famille, ben là, tu partir le matin, c'est un peu plus difficile. T'sais, tu pars le matin jusqu'à au soir, t'as 2 ou 3 entraînements par jour. Tu reviens. Fait que ça me tentait plus de faire ça.
Et le risque aussi.
Et ouais, le risque, justement, moi, en 15 ans de carrière, dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Mais dans mon sport, j'avais une bonne capacité d'encaisser les coups. Mais dans la vie de tous les jours, même si je mets ça dans mon CV, ça change pas grand chose. Mais ça m'a fait que j'ai jamais eu un KO. Il y a personne qui m'a jamais passé le KO dans ma carrière. Puis ça, pour moi, c'était super important. Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, OK, je vais faire 1 ou 2 combats après. Puis après ça, ça va être terminé. J'avais fait le tour, puis des images de moi, KO à terre. Tu sais, là, ma fille, elle a 7 ans, puis elle commence à vouloir savoir ce que je faisais avant. Avec les images de moi sur Internet, ou peu importe, de moi qui est en convulsion à terre, ou vraiment qui paraît pas bien, ou ben non, qui est sans connaissance, ça existe pas. Fait, pour moi, c'est super important que ma fille voit jamais ça. Fait que j'ai pris ma retraite. Aussi, ça donnait un point à la ligne, de dire, OK, c'est assez.
Patrick Erika, merci d'avoir été là.
Ben, merci de nous avoir reçus.
Ouais. Merci beaucoup.